Nous continuons à parler des controverses. Et la prochaine fois aussi, on va continuer à parler des controverses. Donc, première controverse ce soir, c'est la controverse manichéenne. Donc, Mani était influencé, Mani c'est un homme, dans la région d'Iran, je pense, qui était influencé par plusieurs religions. Et il fait un genre de synthèse de plusieurs. Et il a fondé donc une religion qui portait son nom, Mani, donc Manichéisme. Manichéenne. C'était surtout un mélange entre le zoroastrisme, donc un dieu de lumière et un autre dieu de ténèbres, le judaïsme et la chrétienté. Il a adopté beaucoup d'interprétations gnostiques du christianisme. Donc on a parlé de gnosticisme avant. Et c'est souvent cette idée que le matériel est mauvais, l'esprit est bon. Le dieu de lumière donc sera le dieu des esprits et le dieu des ténèbres sera le dieu de matériel, etc. Plus tard, ils vont dire que les cathares étaient manichéens, ce qui n'était pas le cas. Et même on voit beaucoup dans Jean et aussi en Paul, cette idée de lumière et ténèbres. Mais bibliquement, il n'y a pas d'égalité entre lumière et ténèbres. Lumière est Dieu et ténèbres, c'est le manque de lumière. Donc, ce n'est pas une égalité entre deux dieux différents, mais c'est l'absence du vrai Dieu qu'on parle des ténèbres. Donc, dans le manichéanisme, le roi des lumières est contre le roi des ténèbres et les hommes sont liés à la lumière par l'âme, mais aux ténèbres par le corps. Le salut, c'est de libérer l'âme de son corps en regardant la vraie lumière, donc il va l'appeler Christ. Augustin était dans ce mouvement pendant 12 ans, et par la suite, il a refuté le mouvement manichéen. Il y a une autre controverse, la controverse priscillianiste. Donc, Tertullien disait aux païens que c'est un droit humain fondamental, un privilège de la nature, que tout homme puisse adorer selon ses propres convictions. Donc, la religion de l'un ne peut faire du tort ni apporter de l'aide à l'autre. Chacun devrait pouvoir décider pour lui-même. C'est l'idée de liberté de conscience. Donc on va voir plusieurs choses avant qu'on revienne et parle spécifiquement de Priscillien et des Priscillianismes. Justin Martyr aussi a dit « La religion ne peut être imposée par la force. Rien n'est autant une affaire de libre volonté que la religion. » Même Constantin, qui a mis en place l'Église catholique romaine, dans son édit de Milan, a spécifié « Nous avons décidé d'accorder à la foi aux chrétiens et à tous les hommes la liberté de suivre la religion de leur choix. » Nous avons donc décidé, dans un but sain et droit, que la liberté ne doit être refusée à personne de choisir et de suivre l'observation religieuse des chrétiens, mais qu'à chacun, la liberté doit être donnée de consacrer son esprit à la religion qu'il peut penser lui être le plus adaptée, afin que la divinité puisse montrer à notre égard et en toutes choses, ses dons et ses faveurs accoutumées. Donc, dans son édit de Milan, c'était un bon principe. On peut louer cette idée que tout le monde devrait avoir la liberté, mais il n'a pas pour le mettre en pratique. C'était ça, malheureusement. Et puis par la suite, Théodose a imposé le christianisme comme religion d'État et il a exclu toute autre expression. Alors, Maxime, dans l'année 385, donc ça c'est 72 années après cette déclaration de Constantin, Maxime était le premier, entre guillemets, prince chrétien de nom qui a versé du sang pour des raisons religieuses. Il a tué des gens pour les raisons chrétiennes, entre guillemets. Donc c'était en Espagne, à Trèves. Alors, quand il a fait cette massacre, les évêques officiels approuvèrent ces actes, mais toutes les églises chrétiennes s'en dissociaient avec horreur. Évidemment, les chrétiens ne peuvent pas supporter que l'église ou que les empereurs tuent les chrétiens. C'était le massacre des Priscilliens, qui était déclaré hérétique par les catholiques et accusé d'être les manichéens ou même les policiens. On va voir ça plus tard. Priscillien était un Espagnol riche, donc un Romain. C'était un homme influent et de grande éloquence. Il a abandonné le paganisme sans pour autant adhérer au christianisme. Mais il se délectait de philosophie, notamment du néoplatonisme, et du manichéisme. Plus tard, il s'est vraiment converti et il s'est fait baptiser. Dès lors, il se consacre à Dieu et devient un fervent étudiant des Écritures. Il vivait sobrement et prêchait avec zèle et un grand succès. Et c'était un travail surtout parmi les intellectuels. Plus tard, il va même devenir l'évêque d'Avila. Alors cela a provoqué la jalousie du clergé officiel. Ainsi, il y a un qui s'appelle Hydatius, un métropolite, c'est-à-dire un archevêque, il a convoqué un concile à Saragosse en 380 et il accusait Priscillien d'hérésie, les hérésies de manichéisme et de gnosticisme. Maxime, donc l'empereur, voulait s'assurer la complicité de la clergé catholique contre Théodose, l'autre empereur, et donc il a convoqué aussi, lui, un nouveau synode à Bordeaux, ah, la France, à Bordeaux en 384. Et c'était avec l'aide de l'évêque Ithac, c'est difficile à prononcer, qui n'avait pas une très bonne réputation. Il a accusé les Priscilliens de sorcellerie et d'immoralité. Ils étaient bon. L'exécution a eu lieu à Trèves en 385. Malgré les protestations de Martin de Tours et d'Ambroise de Milan, Priscillien était décapité avec six autres. Cent quatre, 176 ans plus tard, l'Église catholique a confirmé que son approbation au synode de Braga. Donc ils ont parlé de ce sujet beaucoup d'années plus tard et ils étaient toujours d'accord d'avoir assassiné ces hommes. Alors, en 1886, il y a un homme qui s'appelle George Shepp qui a découvert à Würzburg, dans une bibliothèque de l'université, 11 œuvres de Priscillien, contenues dans un très vieux manuscrit écrit en vieux latin et en caractère oncio, qui veut dire que c'était super vieux. Parce que les majuscules, les oncio, les majuscules, s'étaient servis jusqu'aux environs de 300-400, et par la suite, on va tomber de plus en plus vers le minuscule pour les manuscrits. Donc, quand on trouve un manuscrit qui est écrit uniquement en majuscule, on sait que c'est parmi les plus anciennes. Il en découle que tout ce que l'on savait, on pensait savoir sur Priscillien, son enseignement était enfin déformé par l'Église catholique, eh bien, tout était absolument faux. Pour le style, donc le style de Priscillien était vivant et il cite constamment les Écritures, soit directement du grec ou bien dans une traduction qui est plus ancienne que le Vulgate de Jérôme. Et ces citations étaient fortes à propos qui montrent sa connaissance, sa bonne connaissance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il proclame le droit du chrétien de lire autre chose que la Bible. Donc, on veut que les chrétiens lisent la Bible, mais on n'interdit pas qu'ils lisent les journaux ou d'autres livres. Hein, on a le droit à lire. Même Paul a fait des citations des livres païens quand il parle dans la Bible. Hein. Donc, il soutient le droit pour les chrétiens de lire d'autres choses que la Bible. Alors, l'apôtre Paul disait lui-même au Thessaloniciens, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, ça veut dire qu'on a quand même le droit à voir les choses, mais aussi à ne pas s'attacher à ce qui n'est pas bien. Donc, le fait que Priscillien permettait que les gens lisent autre que la Bible, il était accusé d'avoir inclus les apocryphes parmi les écrits sacrés.
Et ils ont pas mis maintenant les...
Ben si, ça c'est la contradiction historique des catholiques. Des fois, ils vont tuer des gens pour faire quelque chose et plus tard, ils vont adopter cette même chose. Donc, les apocryphes, ce que ces accusateurs ont fait plus tard. Hein, ils l'ont mis dans leur Bible. Pour sa foi, Priscillien était contre le sacramentalisme, car le salut est obtenu par la foi et non pas par un acte rituel ou magique. Chacun doit choisir pour lui-même sa foi. La foi est un choix personnel. Et lors d'une chute, la communion avec Dieu doit être rétabli par la repentance et la demande de pardon. Tout homme né de nouveau a le Saint-Esprit, possède le Saint-Esprit, et non pas seulement les ecclésiastiques. Il n'y a pas de grâce extraordinaire, comme par la messe ou par le baptême ou les choses comme ça. Bien plus, Priscillien dénonçait le manichéisme pour ses erreurs. Il n'était pas manichéen, il dénonçait le manichéisme. Il démontre que le manichéisme est contraire aux Écritures. Il affirme que pour comprendre les Écritures, il n'est nul besoin de formation spéciale hormis la foi. Il ne donne à l'ascétisme aucune valeur de salut ni de communion avec Dieu, mais seulement de sanctification. Bien entendu, les Églises étaient indépendantes. Alors, les évêques étaient dérangés par Priscillien et sont devenus jaloux de son succès croissant et surtout de son influence sur les gens éduqués. Donc, craignant que leurs privilèges et leurs vues centralisatrices on comprend que ce nouveau clergé de caste issu du paganisme ait voulu et cru détruire l'évangile, n'hésitant pas à le calomnier et à la faire du chantage politique comme les pharisiennes ou les sadduciennes auraient fait avec Pilate. Donc, du fait qu'il avait peur de perdre de leur place par cet homme éloquent, eh bien, il a calomnié même l'Évangile. Il prétendait qu'il allait détruire l'Évangile. Et donc, eux, fait le contraire. Et donc, il a calomnié Priscillien pour le accuser. Et souvent, dans l'histoire et dans les écrits, on va parler des anciens groupes qui étaient tout à fait chrétiens. Peut-être pas tout à fait comme nous, mais tout à fait chrétiens. On va les accuser d'être manichéens, on va les accuser d'être gnostiques, ou diverses sectes du passé. Et même quand on dit ça, ce sont l'optique secte des catholiques, parce que la réalité de ces anciennes sectes n'était pas toujours conforme à l'image que l'Église catholique a promue à leur sujet. Et c'est comme ça pour les cathares, on ne connaît que les calomnies de l'Église catholique romaine contre les cathares. Et donc, toutes les choses que les gens lisent et rabâchent à propos des cathares, ce sont des dit-ons. Et souvent, c'était les données qu'on a récoltées dans les tortures. Donc, on dit, est-ce que c'est vrai que les cathares font ceci ou cela? Et on torture, et puis, oui, c'est ça! Donc, il dit, voilà, ils ont quelqu'un cathare qui dit ça, mais en fait, c'est eux qui proposent ce qu'ils doivent dire, et puis, pour ne pas être torturés, ils disent, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, on ne connaît pas grand-chose à propos des cathares en dehors de quelques écrits qu'on a retrouvés dans les derniers 20 ans. Je pense, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est déjà beaucoup de parler de ces gens-là. J'aimerais faire une recherche sur Internet pour trouver justement ces 11 œuvres de Priscillien. J'aimerais trouver ça, mais je l'ai écrit là, trouve ça, mais je n'ai pas encore trouvé. Et ce sera intéressant de voir quelle était vraiment sa doctrine et tout ça. Pas que ça fait une chose pour notre foi à nous, parce que notre foi se base uniquement sur la parole de Dieu. Mais c'est bien de savoir qui étaient les autres croyants à travers les siècles.